Bonjour. C'est l'été, la grande table change d'air et se laisse emporter sur les routes réelles et imaginaires de la création. Des bords de la Manche au cours d'Avignon, une déambulation parsemée de rencontres avec tous ceux que la pulsion créative habite. Écrivains, photographes, musiciens, cinéastes, les artistes seront nos convives et leurs œuvres nos nourritures terrestres. C'est sur la route empruntée par toute une génération d'auteurs américains que commence notre périple, au rythme du beat qui s'est emparé de la plume des compagnons, mais aussi des compagnes, écrivaines, poétesses injustement passées aux oubliettes de l'histoire. Puis nous filerons vers le nord, direction le château d'Ardelot, pour tirer le portrait de la photographe passée de l'obscurité à la lumière, Nan Goldin. Il est temps de nous mettre à table avec l'éphéméride du jour, évocation d'un autre 2 juillet. Le 2 juillet 1961, c'était la mort de l'écrivain américain Ernest Hemingway.
For a true writer, each book should be a new beginning where he tries again for something that is beyond attainment. He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. Then, sometimes, with good luck, he will succeed.
La langue d'Hemingway nous renvoie à la littérature américaine et aux écrivains qui ont pris sa suite. Nous allons parler des femmes, auteurs injustement méconnues ou oubliées de la Beat Generation en compagnie d'Olivier Penaud-Lacassagne, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et auteur notamment de Beat Generation, l'inservitude volontaire publiée aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous la comédienne, chanteuse, metteur en scène Mirabel Wassef, directrice artistique depuis 2007 du Ruby Théâtre. Et avec Séverine Morfin, vous avez porté sur scène des textes poétiques d'auteurs reux et ça s'intitule Rise Up, femme poète de la Beat Generation. Bonjour.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que ça vous évoque ces mots d'Hemingway ? Écrire quelque chose qui n'a peut-être pas encore été écrit, peut-être avec un peu de chance, ça pourra faire quelque chose.
C'est le thème d'aujourd'hui en réalité. Hein ? Non seulement écrire quelque chose qui n'a pas été écrit, mais commencer à parler de quelque chose qui a été oublié. Hein, vous avez justement parlé des oubliettes de l'histoire, les femmes de la Beat Generation. Malheureusement, sortent à peine de ces oubliettes.
Alors quand on parle des oubliettes, on parle du beat, et beat c'est un peu ça aussi, hein, c'est un peu ceux qui ont été écrasés d'une certaine manière. Il y a trois exceptions je crois du mot beat, comment est-ce qu'on le définirait rapidement ?
Alors la première définition qui a été donnée, elle a été donnée par John Clayton Holmes dans un article publié dans le New York Times en 1952. Et le beat, le jeune homme beat, c'était un jeune homme fauché, battu, qui menait une vie, disons, quelque peu désordonnée entre musique, littérature et drogue et alcool.
Alors la musique, parce que le beat, c'est aussi le jazz, c'est, voilà. C'est aussi la musique.
Deuxième acception du terme, c'est le rythme, le beat. Hein, c'est le rythme du jazz. Et puis le troisième sens, qui est propre à Kerouac, qui a une partie de la Beat Generation, c'est de rapprocher.
Mystique.
C'est le sens mystique, beat de béa, hein, béatitude, au sens que Kerouac tente de dégager dans son œuvre.
Alors quand on parle de la Beat Generation, on a ce problème, Mirabel Wassef, c'est qu'on parle d'une histoire d'homme, d'une triade d'hommes. On parle évidemment de Kerouac, de Ginsberg et on parle de Burroughs. Alors que s'est-il passé justement pour les femmes ? C'est la question qui se pose et que vous avez décidé de mettre sur scène.
Oui, exactement. En effet, que s'est-il passé autour de ces femmes qui ont été complètement invisibilisées à la fois à l'époque et jusqu'aux années 90 aux États-Unis et en France jusqu'à très récemment. On les redécouvre, enfin on les découvre ou redécouvre pour les gens qui sont plus spécialistes. Mais c'est un peu le lot de toutes les artistes femmes de l'histoire depuis la Révolution. Hein. On est toujours en train de redécouvrir les artistes femmes. Elles étaient bien présentes à l'époque, elles étaient avec eux, elles étaient dans les appartements en vivant cette vie de bohème avec eux et elles écrivaient un peu cachées dans la cuisine en même temps qu'elles s'occupaient des enfants et de leurs problématiques à eux également. Elles les soutenaient avec l'édition, elles soutenaient leur travail également.
Ah ouais, écoutez, Yves Buin, biographe de Kerouac, c'était dans la compagnie des auteurs sur France Culture le 20 juin 2016.
il faudrait faire une petite incidence sur le rôle des femmes dans la Beat Generation.
Oui, c'est vrai qu'on les entend pas beaucoup, les femmes, dans la Beat Generation.
Il y a le livre de Joey Johnson Glassman sur les personnages secondaires, vous l'avez lu. Mais les femmes ont joué un rôle de liaison essentiel. Il y en a au moins deux, sinon trois. Il y a donc Eddie Parker, qui va connaître Lucien Carr, qui connaît Ginsberg, qui connaît Burroughs, et la liaison va se faire en 3 mois, vous savez. Et il y a Joanne Volmer Adams, l'épouse de Burroughs, qui, elle, avec dans son appartement de la 115e rue, va être une espèce de lieu de rencontre quotidien et permanent avec toute la bohème new-yorkaise qui était à la recherche d'un nouveau style de vie.
Mais pourquoi est-ce qu'elles sont tellement en second plan ?
Est-ce que c'est le machisme ? Non, je dirais que c'est une affaire d'hommes, parce que ceux qui se sont retrouvés, c'était des hommes. Et en plus, qui étaient de tendance homosexuelle. Bon, Kerouac était bisexuel, c'est clair, avec une dominante hétérosexuelle.
C'était enfin, de la curiosité pour lui ?
Il a déclenché des amours, hein.
Ah, il a déclenché des amours, oui, mais lui-même n'a jamais été réellement amoureux d'un garçon, si.
Ginsberg, Cassady, alors c'est peut-être platonique, mais c'est pas tellement platonique avec Ginsberg. Hein.
Olivier Penot-Lacassagne, on l'est là dans ce qu'a retenu le monde aussi universitaire pendant une très longue période, hein, jusqu'à la redécouverte et au regain d'intérêt dans les années 90 pour la Beat Generation. D'abord, les femmes, ça a été la présentation des compagnes.
Oui, le document que vous venez de passer est tout à fait éloquent par, sa méconnaissance, la méconnaissance qui est avouée de ce qu'est la Beat Generation au féminin.
Ce serait une histoire d'homme ?
C'est une histoire d'homme, mais pas seulement, bien sûr. En fait, il y a deux choses qui se croisent. Il y a tout d'abord l'historiographie, je dirais, de la Beat Generation par des spécialistes ou des non-spécialistes de ce que la Beat Generation a pu être. Et puis, il y a l'historiographie intérieure de la Beat Generation, telle que, par exemple, un Ginsberg va la secréter. Il est, parmi les membres de la Beat Generation, l'un de ceux et sans doute celui qui a le plus fait pour nous transmettre une certaine histoire de la Beat Generation.
Donc la manière dont elle s'est elle-même documentée, donc elle a eu une capacité à transmettre.
Dont elle a organisé en quelque sorte sa publicité. Et par exemple, le nom de Diane Diprima n'a pas encore été cité, elle est fondamentale, elle est majeure, l'œuvre est considérable, et Ginsberg dira d'elle, la seule femme écrivain qui était à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi ? C'est ça la question que l'on peut poser. À la hauteur de quoi ?
D'autant
plus à la hauteur de quelle masculinité ?
Alors là, ce que l'on entend, c'est effectivement cette vie de bohème, cette vie sur la route, ça aurait été une vie d'homme, ce qu'on ne sait pas vrai du tout, puisqu'elles ont elles aussi pris la route. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ces compagnes évoquées là ? Eddie Parker, la femme de Jack Kerouac, et Joanne Volmer, qui va être la victime de cet accident de Burroughs, justement. On peut peut-être le raconter, l'accident de la pomme.
Oui,
Olivier Penot-Lacassagne.
Bon, le détail de l'accident est un peu sordide. Le couple Burroughs se trouve au Mexique et William Burroughs, qui était passionné des armes, tente de maladroitement,
jouer à Guillaume Tell.
Jouer à Guillaume Tell, et il manque la pomme qui se trouve sur la tête de sa femme et tue accidentellement, dit-on, sa femme. Bon, voilà, ça n'a rien de très glorieux dans l'histoire de Burroughs. Et c'est tout à fait anecdotique, en fait, au-delà de l'accident dramatique. La place de cette femme dans l'histoire de la Beat Generation compte assez peu. Ce qui nous intéresse en réalité aujourd'hui, et on en parlera très certainement, c'est la femme à la fois créatrice et procréatrice dans l'Amérique des années 50 et dans l'Amérique des années 60. C'est-à-dire dans une Amérique
d'après-guerre,
conformiste, traditionnelle, réactionnaire la plupart du temps, et la Beat Generation masculine n'est pas indemne de ce conservatisme. Voilà.
Alors, Mirabel Ouassef, vous êtes intéressée, alors à la fois personnellement, mais artistiquement aussi, à ces femmes. Peut-être vous pourriez nous citer les noms des plus importantes que l'on retrouve dans votre spectacle. Anne Waldman, on a parlé de Diane Diprima.
Anne Waldman, Diane Diprima, Etty Jones, il y en a beaucoup. Il y a aussi Joanne Kiger, Joyce Johnson, qui a écrit également des mémoires. Donc, elles ont écrit à la fois des poésies, des mémoires. Elise Cowen, qui, elle, est morte très jeune, qui s'est suicidée à 20 ans.
27 ans, dont on a retrouvé des textes très 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 tardivement, des extraits très minimes de son œuvre. Il y a la découverte de ces textes par l'écriture et ensuite de ces femmes, de leur vie, et les deux sont concomitants et sont très importants à mettre en lumière, parce que ça crée des modèles pour aujourd'hui et pour l'avenir. La Beat Generation, les hommes font partie de notre histoire, de notre passé, et les femmes, comme dit Bruno Doucet, qui a édité une anthologie très récemment, Beat Attitude, il dit oui, les femmes beat font partie de notre avenir. Je les ai rencontrées, je suis allée à San Francisco et à New York pour les rencontrer, et elles m'ont fait part d'un tas de choses, et j'ai ressenti qu'est-ce que c'était que d'être une femme à ce moment-là, et la transgression de quitter sa famille, de se retrouver dans ces mêmes appartements, dans ces mêmes modes de vie, et de aussi du voyage à travers les États-Unis, San Francisco, mais aussi en Inde, au Japon, et toujours aujourd'hui. Anne Wallman travaille à Mexico, à Tanger, enfin de par le monde, voilà.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier Penaud-Lacassagne, c'est effectivement l'Amérique des années 50-60. Elles auraient dû appartenir à la génération qu'on appelle encore la Silent Generation, c'est-à-dire une condition féminine encore très assignée à des rôles ménagers ou maternels. Et justement, de là vient leur résistance et leur rébellion, peut-être encore plus forte que celle des hommes.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que par rapport aux hommes, c'était des jeunes femmes très éduquées. Elles ont fait des études à l'université, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, c'est leur instinct de vie qui leur a dicté, elles ne l'expliquent pas particulièrement, qui leur a dicté de s'enfuir de ça, de rejeter ces codes de la vie de consommation, du capitalisme, et donc d'être même, Diane Diprima était anarchiste, et en révolte contre la guerre, évidemment, contre ces modèles mais voué au silence. Et elles ont exprimé les problématiques des femmes qui étaient d'abord de la mixité, de faire des enfants avec une personne noire, d'avoir des enfants métis, l'avortement, mais aussi le travail de l'écriture. Qu'est-ce que c'est que d'être un artiste? Qu'est-ce que c'est que de se vouer à un art en liberté? Et elles n'avaient pas conscience complètement à l'époque, d'après ce qu'elles m'en ont dit, de la discrimination qu'elles vivaient. Diane Diprima dit qu'elle était peut-être dans le déni parce que sa volonté première était d'être indépendante et de se sentir seule dans son travail. Mais aujourd'hui, elle sait qu'elle a été discriminée au niveau de l'édition, au niveau des performances auxquelles elle n'était pas invitée. Et encore aujourd'hui, c'est toujours après les hommes qu'on parle d'elle.
On va commencer par les écouter.
Je surgis de la tombe, homme de guerre. Je surgis maintenant, juste quand vous croyez que vous m'aviez mise à terre, à ma place, enfouie. Vous sentez le sol gronder sous vos pieds? Il se fracture, il se retourne, il s'élève, il s'introduit dans votre point de vue, votre propriété privée. Oh, homme de guerre, vous les censeurs, préparez-vous, mes grands, préparez-vous, je monte avec tout ce qui était caché.
Mirabel Ouassef, racontez-nous ce qu'on entend.
Alors là, donc, c'est un texte qui a été écrit par Anne Wallman, traduit par Jacqueline Starrer, avec qui nous avons collaboré sur toute la création de ce spectacle, et en amont et toujours, que nous avons créé avec Séverine Morfin, qui est altiste et qui aide à la fois dans l'improvisation, l'écriture et les effets de son. Donc nous avons fait un travail sur différentes poètes et on les a mis en scène avec donc de la musique.
pour qu'on les entende un peu. Et on entendait ce rythme, c'est vrai qu'on parlait du beat, ce rythme ultime, alors donc ce rythme qui peut aller jusqu'à la béatitude si on suit la route de Kerouac. Olivier Penaud-Lacassène, quelle différence majeure on peut faire entre justement les femmes de la Beat Generation et les hommes, puisque on a dit que ça n'était pas vraiment un courant en soi. Certains se sont revendiqués, Kerouac est finalement l'un des seuls à s'être auto-revendiqué de la Beat Generation. Qu'est-ce qui unit finalement ces auteurs entre elles?
Entre eux et entre elles?
Entre eux et entre elles, mais là je pense entre elles.
D'accord.
Elles n'ont pas nécessairement les mêmes origines sociales, d'ailleurs.
Elles n'ont
que
pas
les
nécessairement
auteurs.
Les mêmes origines sociales, elles n'ont pas les mêmes parcours, elles n'appartiennent pas à la même génération. Par exemple, Anne Wallman, née en 1945, elle
elles
appartient à ce qu'on
jeunes.
Appelle la troisième génération de femmes liées plus ou moins à la Beat Generation. Ce qu'elles apportent, deux choses, ou deux ou trois choses. En tout cas, la première chose, c'est que, et ça vient d'être rappelé, ce sont des femmes, des jeunes femmes de la rupture. Rupture familiale, rupture sociale, dans une Amérique qui apprécie guère, c'est l'Amérique McCarthyste qui apprécie guère ce genre de libéralité. La deuxième chose, ce sont des femmes qui vont côtoyer, qui vont être attirées et qui vont côtoyer une bohème qui est masculine, mais il faudrait y ajouter qui est multiraciale. Et c'est une des choses qui a été inaperçue en plus des femmes, c'est en réalité la singularité de la communauté noire au sein de la Beat Generation, en particulier à travers le personnage de Laura Jones, Mary Baraka, à partir de 1967. L'engagement politique, le nationalisme culturel d'un Laura Jones fracture véritablement la Beat Generation.
D'ailleurs, c'est un peu l'histoire de la Beat Generation, c'est la conquête aussi de devenir soi-même américain. Ils sont, pour certains, issus des minorités, fils d'immigrés. Il y a aussi cette conquête-là, qui est une conquête personnelle de ces écrivains.
Exactement, et ça touche autant les hommes que les femmes, pour le coup. Et puis, les femmes font entendre quelque chose de particulier, de singulier, une véritable voix, il faudrait la pluraliser, elles font entendre des voix, autant de voix féminines qu'elles sont représentées. Par exemple, et ça n'a l'air de rien, mais c'est tout à fait essentiel, on quitte en quelque sorte les généralités sympathiques de la route pour aborder à la fois l'espace public et l'espace privé, la sphère privée. Les discriminations ou le sexisme quotidien, par exemple. Diane Di Prima, dès 1961, dans un recueil de poèmes qui s'intitule « Diners and Nightmares »,« Dîner et cauchemars », dans un poème qui s'intitule « La querelle », revient sur la discrimination au sein de son propre couple entre tâches supposées masculines et tâches féminines. C'est absolument inaudible pour les membres masculins de la Beat Generation, et là, c'est l'émergence de quelque chose dont on n'est pas encore sorti, semble-t-il.
Alors, on va entendre un extrait justement de Diane Di Prima qui lit elle-même son texte et « Keep the beat », le poème qu'elle va lire justement.
So, yeah, keep the beat. Keep it. Was François Villon a beat? The Minnesingers? What's a troubadour? What about them guys we call the wandering scholars? Who left the monastery for the road? It's not a generation, Jig. It's a state of mind. A way of living, gone on for centuries, a way of writing, too. Beat poetry is older than the grove of academe, older than Apollo or Pythagoras. It's one of the ways that Dionysius plays, tongues of ecstasy. Romantic is another. How many more? I don't know. But I know for sure it's not a generation, not once, not one time, one country. Though in your lot with the gals and guys on the streets, write like you talk, talk like you sing, sing like you dance or love. It's a risk, an adventure, and it plays the edge. Live close to the edge and love it. Free to fail, nothing to lose. Tons of ecstasy, nowhere to go. Nowhere to fall but into the arms of the father, mother, the Yab-Yum, Dionysus. Et voilà.
Mirabel Wasset, vous nous présentez ce texte.
Oui, alors c'est un texte que j'ai enregistré en allant interviewer Diane Di Prima chez elle à San Francisco. Et donc, on a énormément discuté sur plusieurs jours. Et donc, elle m'a lu ce texte qui est bien la définition avec toutes les thématiques de ce qu'est être beat. Et ce qui fait le pont avec aujourd'hui, être beat, ce n'est pas une génération, ce n'est pas un moment, un endroit donné. Elle dit, tu peux être beat aujourd'hui si toi tu le décides. C'est un esprit, une expérience, c'est une manière d'écrire aussi. C'est quelque chose que tu peux porter aujourd'hui. Et elle dit même, tu peux être un homme néandertal beat. Voilà.
Et c'est aussi une manière de le dire, hein, on entend, puisque c'est la forme du poème qui a été la forme majoritaire chez ces femmes de la Beat Generation, on entend aussi ce texte, ces vers projetés justement dans un souffle. Est-ce que vous, ça a été quelque chose d'important pour votre spectacle, Mirabel Wasset, que cette forme?
Tout à fait. La forme me permettait de mettre en scène de manière assez évidente, en lien avec la musique, puisque elle connaissait le jazz. Elle avait vu en live Miles Davis, Monk, Billie Holiday, Charlie Parker. Le jazzman était le héros beat. Vraiment, c'était leur héros. Et ça infuse dans le texte et la profération. C'était des textes qui étaient faits pour être dits. Et donc aujourd'hui, en les reprenant et à la traduction, il faut le faire sentir. Et donc, les dire sur scène, il y a une forme d'évidence, puisqu'elles portent à la fois une rythmique et à la fois un état d'esprit qui permet l'incarnation, qui permet de projeter du sens, qui permet de se projeter dans des imaginaires. Donc, toutes ces choses permettent de le mettre en scène de manière assez simple, on va dire. Il faut aller au plus simple pour le partager avec les gens, car ça résonne. Du coup, tout à fait de manière évidente avec le public.
Olivier Penaud-Lacassagne, on retrouve là ce lien entre la forme esthétique et le fond qui est le même que chez les hommes de la Beat Generation. Je pense à Kerouac, à son rouleau, à sa forme déstructurée aussi et à cette énergie vitale que l'on retrouve aussi dans la poésie féminine.
Exactement, mais ça me permet de préciser peut-être quelque chose, c'est que, puisqu'on a amorcé une critique de la masculinité de la Beat Generation, mais ce qu'il faudrait dire également, c'est que les forces de répression sont considérables dans les années 50, 60 et jusqu'à nos jours. Et quelles sont ces formes de répression les plus courantes et qui paraissent anodines? Le cinéma en particulier. Le cinéma hollywoodien s'est attaqué frontalement dès le milieu des années 50 à cette bohème littéraire, masculine et féminine, en présentant des stéréotypes imbéciles de ce que peut être un jeune homme beat et une jeune femme beat. C'est pire encore pour les femmes. Les femmes, c'est rien. En réalité, dans le cinéma de cette époque, c'est absolument la négation totale de ce que pourrait être une femme cherchant à s'émanciper. Et ça, c'est très très intéressant parce que en réalité, il va y avoir la création d'un titre Miss Beatnik dès 1959 qui va être délivré à San Francisco. C'est dire ensuite la difficulté pour ces femmes créatrices, ces femmes poètes, ces femmes éditrices, ces femmes dramaturges, etc. de la Beat Generation, la difficulté à se faire entendre à travers le prisme ou à travers, je dirais, cet obstacle de l'image publique qui est véhiculée à travers le cinéma ou à travers les médias.
Pourtant, on est quand même dans un courant progressiste qui amorce ce que seront les codes de la contre-culture. Alors, pourquoi est-ce qu'on est si en retard, puisque les poétesses ont vécu aussi la vie avec enfants sur la route pour Diane Di Prima. Anne Waldman, elle a aussi beaucoup voyagé. Pourquoi est-ce que finalement une différence si forte a été marquée, y compris par leurs contemporains? Olivier Penaud-Lacassagne, on est quand même dans un mouvement progressiste.
On est dans un mouvement progressiste, mais le mouvement progressiste reste minoritaire. La contre-culture américaine, j'ai quand même un peu travaillé sur cette question-là, comme toutes les formes de contre-culture, sont minoritaires et parfois ultra-minoritaires. Alors bien sûr, elles ont des incidences sociales, mais l'incidence sociale d'une contre-culture, c'est une forme de domestication, d'absorption, de digestion en réalité des ruptures qui sont proposées ou qui sont expérimentées.
Alors on leur reconnaît tout doucement, petit à petit, certaines vertus. Alors avant de reconnaître leur travail, il va y avoir leur capacité à avoir documenté la Beat Generation, à avoir conservé les poèmes, à avoir conservé ce que l'on sait aujourd'hui des auteurs de la Beat Generation, Mirabel Wasset.
Tout à fait. À l'époque, elle travaillait en direct pour déjà promouvoir les poètes de la Beat Generation, qui étaient donc leurs collègues, leurs copains, leurs amis. Diane Di Prima a créé, avec Amiri Baraka, le Roi Jones, The Floating Bear. C'était une feuille de chou dans laquelle les premiers textes, certains premiers textes de Berou, de Kerouac, de Ginsberg ont été édités. Etty Jones, également avec le Roi Jones, donc il savait trouver des bonnes travailleuses hein, pour se faire accompagner, ont créé Jugend, ce qui était pareil, hein, des premiers textes édités et envoyés à tous les poètes de la communauté pour faire la promotion. Voilà, déjà, dès les premiers pas, et Diane Di Prima avait elle-même une presse qu'elle maniait toute seule dans une espèce de pièce derrière une librairie pour éditer des textes, les siens, mais aussi tous les autres. Donc c'est une façon de promouvoir le travail des hommes, de ses collègues.
On va écouter le poète Alain Jouffroy, c'était sur France Inter Actualité le 20 janvier 65.
Ces poètes vivent aux États-Unis, ce sont des Américains pour la plupart. Ils sont combien ?
Oh, ils sont une dizaine au grand maximum, parmi lesquels il y a quatre grands poètes importants. Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, qui est en même temps l'éditeur de la Beat Generation, Gregory Corso et William Burroughs. Et on doit y ajouter naturellement Jacques Kerouac, qui est romancier et poète.
C'est ça, et ce sont des hommes jeunes, ils ont entre 30 et 40 ans pour la...
Ce sont des hommes nés de la guerre, oui, ce sont des hommes qui ont précédé la grande génération, de la Lost Generation, n'est-ce pas, qui ont suivi la Lost Generation et qui ont, si vous voulez, renoué avec la tradition de la littérature de la révolte aux États-Unis, qui d'ailleurs n'avait jamais existé sur le plan poétique.
Alors est-ce que c'est pas justement cette dimension guerrière, même si c'est une dimension pacifique, cette dimension guerrière, la guerre par la littérature, par la forme, par les modes de vie, puisque c'est aussi un mouvement très sociologique d'une certaine manière, la Beat Generation, est-ce que c'est tout ça qui font que finalement les femmes restent dans l'invisibilité totale, Olivier Penaud-Lacassagne ?
Non, je pense que c'est une question d'époque. On a parlé d'Anne Wallman et par exemple, l'œuvre de Wallman est une œuvre à la fois poétique, littéraire et politique. Elle est très engagée dès les années 70. Dans les années 80, elle prend position contre le nucléaire. Dans les années 2000, elle intervient sur la scène, j'allais dire, politique et s'inquiète des pratiques de torture à Guantanamo, etc. etc. Donc c'est véritablement une question d'époque et les femmes américaines sur ce plan ont peut-être... précédé les femmes européennes, elles ont pris la parole, ont commencé à parler haut et fort, ont tenté de le faire, Angela Davis dans la communauté noire par exemple, beaucoup d'autres femmes, mais c'est pas facile.
Alors les thèmes, on parlait des thèmes évoqués dans ce condensé qu'était ce Keep the Beat, lu par Diane Di Prima, que vous avez enregistré, Mirabel Ouassef. On a parlé effectivement de la conquête spirituelle, peut-être, de l'état d'esprit qui était là, mais il y a aussi cette manière de vivre sa vie, cette communauté aussi, cette manière de vivre solidaire, et justement l'alcool, les drogues, peut-être cette manière de voir aussi à travers ces substances. Peut-être une approche mystique, Olivier Penaud-Lacassagne.
Je ne sais pas. Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça fait un peu partie de la mythologie. Kerouac est sans doute un consommateur de drogue, mais surtout d'alcool. Et c'est un lent suicide à partir de ce quiproquo que constitue sur la route. Et Kerouac disparaît dramatiquement en 69. Le grand expérimentateur des drogues, il y en a plusieurs, mais Ginsberg, Burroughs, McClure. Pour les femmes, je n'en sais rien en réalité, mais ce que j'observe, c'est une longévité. C'est-à-dire que Diane Di Prima est encore vivante, par exemple, et bien vivante.
Mais elle a fait aussi de nombreuses expériences avec les drogues.
Oui.
Il y avait en fait des cadres, elle a fait des stages d'initiation au LSD pour s'accompagner, etc. À la fois dans le lien avec le bouddhisme aussi, la religion. Mais les drogues étaient quand même un lieu d'expérimentation mentale.
Et d'écriture aussi.
Et d'écriture par rapport... Oui, alors moi, je ne sais pas à quel point elle a écrit sous drogue. Elle ne m'a pas parlé de cet endroit-là. Mais par contre, comme vraiment une expérience du sens, une expérience du monde à travers les drogues, mais prises de manière absolument guidée et cadrée. Et elles ont dû à un moment donné arrêter, peut-être... voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'elles sont encore vivantes parmi elles et qu'elles n'ont pas sombré dans l'addiction.
Mais il y a presque eu un savoir-faire de ce que vous nous décrivez.
Exactement,
dans la
c'est
manière
un travail,
de contrôler.
Voilà, de contrôler et de se faire guider et de guider les autres comme une hygiène un peu. C'est vraiment une expérience artistique et personnelle.
On faisait allusion à Diane Di Prima qui a vécu dans son combi Volkswagen, y compris avec ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette charnière générationnelle, puisque c'est entre les années 40 et les années 60 que se vit cette génération beat. Et il y aura ensuite la génération hippie. Alors on se retrouve à une charnière qui commence cette contestation aussi du consumérisme des Trente Glorieuses, Olivier Penaud-Lacassagne.
Oui, alors il y a vraiment une à la fois césure et continuité, c'est-à-dire que les grandes figures de la Beat Generation, en particulier les figures masculines pour le coup, vont, je pense à Gary Snyder, je pense également à Ginsberg, vont innerver le hippisme, la révolution hippie des années 60. Et puis après, ensuite, c'est le temps des grandes reconversions. Hein. Donc, chacun, ici ou là, en Europe, aux États-Unis, cherche ce qui est le gauchisme politique qui s'évanouit dans une sorte de réformisme démocratique.
Alors, qu'est-ce que vous dites quand vous dites les hippies? Qu'est-ce qu'ils vont conserver des beatniks, les hippies?
Qu'est-ce qu'ils conservent?
La communauté éphémère.
L'idée, certes, de communauté. Ils mettent en pratique cette initiation à la rupture qu'a constitué la Beat Generation. Ce qui manque souvent aux hippies, c'est par contre la culture beat, la culture littéraire et poétique. C'est-à-dire que le hippisme, de manière générale, est plutôt un culte. Et ce qui va conduire à quelques catastrophes, en réalité. Hein. Au bout de la route, qu'y a-t-il? Pas grand-chose en réalité, sinon des dérives sordides, bien souvent.
Hein. Ça, c'est votre avis, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des structures
aussi?
Pas simplement.
Hein. Le titre, Tout au bout de la route, c'est un titre du numéro de revue actuelle que vous connaissez très certainement, de 1974. On fait le point à ce moment-là, on fait le bilan. Hein. Et c'est très intéressant dans son numéro, on fait le bilan de ce qui a été ce grand mouvement des années 50 et 60 sur les routes du monde. Et on va citer le journal indien ou les journaux indiens de Ginsberg. On va citer Jack Kerouac pour rappeler à tous ces jeunes qui partent sur les routes qu'il y a quand même effectivement une expérimentation qui se fait, mais qui est appuyée sur un savoir.
Et un projet d'écriture. Mirabel Wassef.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, quand on pose la question à Neumann ou à Diane sur qu'est-ce que c'est que la liberté, parce que c'est un petit peu ça, revendiquer le mouvement hippie, revendiquer la liberté, la liberté pour elle, c'est déjà une discipline, en fait. Une discipline, et la liberté, c'est de s'adonner à son travail artistique 24 heures sur 24. C'est de faire allégeance à son art. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Et c'est un message pour l'avenir aussi, et pour moi, et pour nous, les artistes, c'est porter allégeance à son art. Et la liberté, c'est le partage aussi. Et c'est la transmission, et c'est aussi ouvrir la porte aux femmes, aux amis, aux collègues, aux femmes un peu plus lointaines qui elles aussi font ce travail de liberté dans une forme d'éthique et de discipline.
Alors les femmes,
c'est très important pour Anne, par exemple, Anne Wollman. Qui elle fait ça, elle ouvre la porte aux femmes, et à travers aussi son grand travail avec la Jack Kerouac School of Disembodied Poetry, Anna Ropa, qui existe depuis 1974, qu'elle a fondée avec Diane Di Prima et Allen Ginsberg. C'est un endroit de séminaire, de création, de rencontres, qui est actif et très important pour les poètes du monde entier, les jeunes poètes du monde entier qui viennent d'Algérie, de Maroc, de partout, pour s'initier à la fois à la pratique artistique, à la discipline et à l'échange, et aussi à une très grand humanisme. L'humanisme.
Alors, juste en un mot, vous avez parlé de Jacqueline Starrer. Il y a eu cette méconnaissance aussi en France de ces auteurs. Vous avez fait ce travail aussi de les redécouvrir. Il y a un travail de traduction qui a été entamé.
Tout à fait. Alors en fait, je suis tombée par hasard en rentrant donc de voyage de mes création précédente dans le cadre de mes recherches pour un nouveau spectacle. Je suis tombée vraiment par hasard sur cet article de Jacqueline Starrer, Les femmes de la Beat Generation, un groupe qui n'en est pas un. Et je suis moi-même tombée de ma chaise parce que je me suis dit, comment ça, il y avait des femmes? Ah bon, mais comment ça se fait qu'on ne le sache pas? Donc je suis entrée en contact avec elle et elle m'a guidée à travers les anthologies, et même elle m'a donné les contacts de Etty Jones qu'elle connaissait, Anne également, et elle a fait la traduction de nombreux textes que nous avons dans le spectacle, notamment. Non,
merci Mirabel Ouassef et Olivier Penaud-Lacassène d'avoir été parmi nous pour cette première partie. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle Beat Generation, l'inservitude volontaire, et c'est publié aux éditions du CNRS. Et quant à vous, Mirabel Ouassef, vous travaillez sur un recueil bilingue de textes inédits en français d'interviews exclusives des femmes poètes de la Beat Generation.
Je voulais ajouter que Bruno Doucet a publie actuellement une anthologie qui s'appelle Beat Attitude, qui regroupe de nombreux textes en bilingue qu'il faut absolument se procurer pour découvrir
sur le site de
textes.
France Culture.
Tout à fait.
Et c'est l'heure de la musique dans la grande table et l'heure du live. Aujourd'hui, on accueille Ourouni qui nous interprète Nora Naked.
I've got my cloak, my hat and my shawl. Now I should be gone. There must be freedom on both sides. You're not the only one. Helmer overworked himself at the office early and late. Go south, the doctor said. So I borrowed money to go to Italy. Oh, to Italy. I've got my cloak, my hat and my shawl. Now I should be gone. There must be freedom on both sides. You're not the only one. Rank thinks it is all up with him. It can't be helped. In a month he will be dead. He'd give his life for my sake. Says I can trust him like no one else. Yet I love him as a friend. She was brought away by force. I want to go upstairs again. Tarantella in my blood. Let me stay 1 hour more. Things I've been your doll wife, just as at home I was Papa's doll child. I've got my cloak, my hat and my shawl. Now I should be gone. Must be freedom on both sides. You're not the only one.
C'était Ourouni, Nora Naked, extrait de la compilation Le Motel Ma Maison. Vous pourrez retrouver Ourouni le 11 septembre prochain au 3 Baudets à Paris. Tous les liens sont à retrouver sur la page web de la Grande Table d'été, dont le clip réalisé par Chanty Massud.
France Culture, la grande table d'été. Maëlys Bessery.
Ça se passe au château d'Artelot, à quelques kilomètres par la mer de l'Angleterre. Des portraits de ciel, d'arbres, de moutons bénis, de nuages, petits oiseaux sortis de la pellicule de Nan Goldin.
Has everyone looked at the work?
Yeah.
Okay.
L'artiste américaine est apparue, chevelure colorée, comme transportée dans ce décor. Ainsi commence la visite des photopaysages qui ont ponctué sa vie.
Je trouve intéressant de présenter des paysages dans ce lieu. L'environnement s'y prête.
J'ai photographié beaucoup de paysages ces 15 dernières années. J'ai commencé dans les années 80. Je sortais de l'hôpital d'une cure de désintoxication et tout à coup, j'ai découvert le jour. Avant, je vivais la nuit. Je n'étais pas habituée à la lumière du jour. Donc pour moi, c'est magique. Et ça continue d'être magique au quotidien. Je pense que le plus important, c'est de regarder le ciel chaque jour pour prendre conscience de notre insignifiance et pour ressentir quelque chose d'universel, de plus grand que soi. Donc je regarde le ciel et je me déplace seul dans le paysage et quelquefois je prends une photo. Mais je ne recherche pas quelque chose de joli. C'est pour moi une démarche aussi affective, aussi émotionnelle que lorsque je photographiais des gens dans les années 70 et 80. Je continue de photographier des gens. Mais aujourd'hui, je sens un lien plus fort avec la nature. Donc je n'ai plus besoin des gens de la même manière. Et je ne savais même pas jusqu'en 1989, et les photographes vont trouver ça très bizarre, mais je ne savais pas que la lumière naturelle affecte la couleur de la peau selon les différents moments de la journée. Je n'en avais pas conscience. C'est drôle. Mais dans les années 80, j'ignorais même qu'il existait des gradations de la lumière. Je pensais qu'il y avait la nuit, puis il y avait le jour. Par conséquent, ça a été une véritable révélation pour moi, quand je me suis familiarisée avec le monde du dehors. C'est ce que je montre dans ce travail. Ces derniers temps, ça tourne autour des amis et du deuil. J'ai perdu la plupart de mes proches, pratiquement tous ceux de mon âge, de ma génération. Nous aurions dû vieillir ensemble. Ils ont presque tous disparu. Alors je cherche autre chose. Je cherche quelque chose pour combler la perte, je suppose. Enfin, ce n'est pas toujours aussi dramatique. Mais je recherche aussi l'obscurité, des ciels sombres. Je crains toujours la catastrophe imminente. Mon travail, pour l'essentiel, ne respire pas la sérénité. Je m'inquiète vraiment de la fin de l'humanité. Et mon travail est rempli de cette peur. Beaucoup de pièces ne sont pas là. Beaucoup de ciels obscurcis au-dessus des villes. C'est là que je vis. Je vis entre la peur de l'apocalypse et une sorte de quête de sérénité. Tout ça doit sembler bien naïf aux auditeurs français qui ne parlent pas comme ça. Mais je n'ai pas l'habitude de décrire mon travail. Je n'ai encore jamais parlé de mes paysages. Alors j'essaye de formuler quelque chose. Mais c'est pour moi une démarche aussi émotionnelle que l'étaient mes portraits. Je les vois comme des portraits de lieux, des portraits de ciel, des portraits de nuages, d'arbres. Et c'est un vrai soulagement pour moi d'être dans la nature, parce que je n'ai pas à jouer un rôle, je suis juste, c'est moi. Et je n'ai pas à me soucier de l'effet que j'ai sur d'autres personnes. Par conséquent, c'est une liberté pour moi d'être en pleine nature.
Photographier des paysages, c'est les regarder comme des personnes. Les photos paysages de Nan Goldin sont là, oniriques, terrifiantes, si vivantes qu'on pourrait s'y faire happer. C'est un peu le cauchemar de Blanche-Neige, poursuivi par les arbres, entre brouillard et clarté.
Je photographie des paysages depuis les années 80. Les tirages, là, sont des années 80, 90, donc ça fait 40 ans. Certaines photos sont récentes, 2018. Mais ce n'est pas comme si j'avais décidé de faire tout un travail sur le paysage, non. Ça m'a toujours attiré. C'est là où je me retrouve. Et j'éprouve le même attachement affectif qu'avec les personnes que je photographiais dans ma vie d'avant. Mais c'est le fait de rassembler ce travail qui fait sens. Les photos datent d'époques différentes, mais je voulais réunir toutes ces archives, en choisir certaines, les juxtaposer, voir le sens que cela prend pour moi aujourd'hui.
Vous faites allusion au brouillard. Le brouillard, c'est aussi un objet de création. Il est présent dans le travail des écrivains, dans le travail de Dickens notamment. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le brouillard ?
It's silence and emptiness, but for me,
c'est le silence et le vide.
Coming out of the fog means,
mais pour moi, au sens figuré, sortir du brouillard signifie sortir de longues années de confusion et de vertige. Le brouillard a sa propre existence physiologique. C'est très beau à mes yeux, très profond. Le brouillard, c'est tellement silencieux. Il adoucit les angles, toutes les lignes dures. Même la ville disparaît dans le brouillard. Il donne une espèce de profondeur au monde qui devient invisible, plus mystérieux, plus secret. J'adore ça.
Est-ce que vous avez déjà vu des différences entre les différents brouillards que vous avez pu observer, celui de France, celui, le brouillard londonien ?
Fog feels different. Wherever it is, of course.
Oui, le brouillard n'est pas le même selon le lieu, bien sûr. Il cache d'autres maisons.
Trees, you know,
il enveloppe d'autres arbres.
Also, like the picture downstairs called Fata Morgana.
Et ça évoque aussi, comme la pièce en bas intitulée Fata Morgana, ça évoque l'infini. C'est un peu comme essayer de contempler l'éternité.
I'm always looking for something.
Je suis toujours à la recherche de quelque chose. C'est une quête perpétuelle. Tout le monde cherche quelque chose, on peut l'espérer. Mais je cherche un lien avec quelque chose qui explique l'existence, je suppose.
Bon,
j'ai pris de l'âge, alors je recherche des choses différentes dans le brouillard. Et dans la clarté, très souvent, oui. En fait, j'aspire à la clarté.
This painting was done last year in the same location as those.
Ce tableau a été peint l'année dernière au même endroit
it's
que cela. C'est ma première toile. Je dessine et je peins depuis que je suis petite. Et une bonne partie de mon travail est une sorte de journal. Aujourd'hui, j'aime travailler sur toile et je n'arrête pas de peindre. À New York et à Berlin, c'est mon plus grand plaisir.
C'est alors que Nan Goldin se met à parler de celui qui plane au-dessus de tout, ses peintures, ses photos les plus anciennes, le peintre Mark Rothko.
Rothko est mon peintre préféré. J'ai essayé récemment de faire des grilles avec des bandes de couleurs dans ma dernière exposition en novembre. J'ai présenté des grandes grilles en noir, bleu, rouge. J'essaye toujours d'atteindre Rothko par tous les moyens. Et j'ai vu des ciels qui ressemblaient à du Rothko. Pour moi, il s'agit de voyager à l'intérieur d'un tableau. La raison pour laquelle on imprime une image, c'est pour pouvoir pénétrer à l'intérieur, ce que faisait Rothko avec ses toiles. La première fois que j'ai éprouvé un sentiment d'éternité, c'était devant un Rothko. J'ai voyagé très loin et en profondeur dans ce tableau. Alors c'est formidable si vous arrivez à voyager dans mes images. Que souhaiter de mieux ?
I found that in my archives. I don't even remember when I took it. It's a dream, right?
J'ai trouvé ça dans mes archives. Je ne me souviens même pas quand je l'ai prise. C'est un rêve, hein? Oui, c'est un rêve.
The most beautiful the world can look, right?
Et jamais le monde ne paraîtra plus beau, n'est-ce pas?
Les petits accidents créatifs, comme dans cette photo où on voit une empreinte que vous appelez le doigt de Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, Nan Goldin?
It's not a photo mistake. It's reality.
Ce n'est pas une faute technique. Non, non, c'est la réalité.
I plan to pick up my camera sometimes. That's the only thing I plan.
Il m'arrive de prévoir de prendre mon appareil photo, mais c'est la seule chose que je prépare. Et jamais je n'utilise Photoshop dans mon travail. Vous plaisantez. mon travail est ce qu'il est. C'est très important de comprendre ça si vous vous intéressez à ce que je fais. C'est toujours ce que c'est. Et de façon profonde, vous regardez ce que j'ai vu et vous pouvez le voir comme vous le voyez. Mais c'est ce que moi j'ai vu. Et depuis que je suis petite, quand ces rayons dorés sortent du soleil au couchant, ouais, c'est la première idée que j'ai eue de Dieu. Je pensais que c'était ça, Dieu, quand j'étais gamine. Et j'aime toujours observer ce phénomène, j'adore. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Je ne crois pas en Dieu. C'est un concept, j'y ai jamais cru. Mais je crois en la nature. La nature est miraculeuse. Nous ne pouvons pas maîtriser les éléments, le ciel. Donc quelque chose est à l'œuvre. Bon, je suppose que tout ça peut être analysé scientifiquement, mais il faut continuer de croire en la magie.
Each of these pictures are also bring to memory the people I was with in these places.
Chacune de ces photos est aussi un souvenir. Elle me rappelle le souvenir des gens avec qui j'étais dans tous ces endroits.
It's also about perspective. I mean, this
one. Ça parle aussi de perspective. Close enough to touch, but celle-ci, vous voyez, vous êtes assez près pour toucher, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. J'adore ça dans un paysage.
Show where somebody lived once.
Et j'adore les structures qui montrent l'endroit où quelqu'un vivait il y a longtemps.
Nan Goldin, comment est-ce que vous choisissez les paysages que vous photographiez?
I was there first and the picture came after.
J'ai d'abord rencontré des paysages, la photo est venue après. Il est très rare que j'aille quelque part pour photographier un lieu, à moins d'être payé pour ça, mais ça n'arrive pas très souvent. Sinon, c'est seulement si je suis sur place, si je le sens et si j'ai un appareil photo. J'ai pris des photos ici et je n'en prenais plus depuis longtemps, mais j'ai apporté mon appareil parce que mes amis sont photographes et je m'en suis servi pour prendre des photos de ce lieu ici. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point ce lieu est spécial. Je crois que c'est à cause de... Je ne suis pas habituée à la campagne. J'y ai vécu quelques fois dans ma vie, mais je n'ai jamais vraiment... Je ne viens pas de la campagne, alors tout m'y semble spécial. Des choses que d'autres ne voient pas, parce que tout se normalise très vite, on s'habitue.
Penetrating question that you have to ask.
Eh bien voilà, à moins que vous n'ayez une question pénétrante à me poser.
Je me demandais juste à propos du ciel, il y a différents types de ciel que vous représentez. Qu'est-ce que vous cherchez à photographier dans le ciel?
I watch the sky, I love the sky.
J'observe le ciel, je regarde, j'adore le ciel. C'est ce qui occupe le plus clair de mon temps tous les jours.
All of these skies.
Et tous ces ciels me parlent à leur manière, ils sont tous... Vous savez, la beauté reste importante à mes yeux. Il y a beaucoup de beauté dans ces photos.
Il n'y a pas beaucoup de personnes représentées dans vos photos. Ce sont plutôt des silhouettes, on ne voit pas leur visage.
Non, on ne voit pas de visage sur ces photos. Leur personnalité n'est pas le sujet. Dans le cas de la grande photo bleue, là, avec la fille en blanc, elle est en train de filmer avec sa caméra Super 8. C'était tard dans la nuit, on avait pris de l'acide, on était dehors à la campagne, c'était dans le nord de l'Irlande, au bord de la mer. Et l'idée de triper sous LSD, être au milieu de la nature et prendre des photos, tout ça fonctionnait très bien ensemble. C'était un moment parfait. C'est une cinéaste qui tourne en Super 8, elle fait des films extraordinaires.
Pendant très longtemps, vous avez pris surtout des photos sous une lumière artificielle.
Oui, c'est l'objet de ce travail, trouver la lumière, rendre compte de la lumière tous les jours, de l'effet qu'elle a sur les gens, sur le monde, sur les chairs, sur tout ce qui appartient au monde naturel. Tout mon travail porte sur la lumière, s'arracher à l'obscurité pour entrer dans cette lumière et comprendre ce que fait la lumière. Tout mon travail est affaire de lumière. La lumière violette, vous savez la manière dont la lumière peut se transformer en une couleur vive, tout est question de lumière. Et pourtant, pendant, je ne sais pas, dans les années 70 et 80, je n'utilisais que le flash. Je travaillais uniquement à la lumière artificielle et je vivais dans le noir. Alors ça parle de s'extraire de l'obscurité et de découvrir les gradations de la lumière au fil de la journée, les différences de lumière à travers le monde, selon les lieux. Vous savez, je m'émerveille de voir toutes ces variations de la lumière partout dans le monde.
C'est une sorte de métaphore ? D'aller des lumières artificielles jusqu'à la lumière naturelle.
Ce n'est pas qu'une métaphore. Ce n'est pas la métaphore d'une seule chose, c'est la métaphore de tout. Sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Une métaphore, c'est quand une chose peut vouloir dire autre chose, avoir un sens caché, mais ça, qu'est-ce que ça peut représenter de plus? C'est exactement ce que c'est. Comme c'est la chose la plus profonde, sortir de l'obscurité et voir la lumière, ça ne symbolise rien d'autre, juste ça. Vous comprenez?
La lumière de la nature qui déchire le ciel et auréole parfois les moutons sous l'œil du photographe.
Je garde les yeux ouverts, donc je vois la beauté quand elle apparaît, mais je ne la cherche pas. Le mouton a pris la lumière de cette manière. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais essayer de trouver la photo d'un divin mouton. Vous savez, je n'ai rien planifié. Et cet abattoir avec tous ces moutons, ils portent une marque parce qu'ils sont destinés à la mort. Et pourtant, une beauté se dégage. Ils sont tous dans un abattoir. C'est cette marque sur eux. Vous comprenez? Donc, quelque chose d'horrible se transforme en quelque chose de beau. Oui, la beauté est au cœur de ce travail, absolument. Mais ce sont des portraits de lieux, des portraits du ciel. Et je les investis affectivement comme quand je photographiais des gens. Ils ne sont pas séparés de moi. Ils continuent de venir d'ici, de mon ventre, de ma poitrine.
Donc c'est pas la question, c'est pas de prendre des photos, c'est de voir.
Exactement, oui. Ça parle de respiration et ça parle d'abord d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Et mobiliser notre perception pour ressentir cette chose, cette expérience. La perception pour éprouver cette journée particulière, cette lumière, ce moment, ce mouton. Il faut juste être curieux et ouvert.
Je me demandais pourquoi vous avez choisi ce nom, Fata Morgana. Une de vos expositions précédentes s'appelait Scopophilia. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, justement, la pulsion scopique, le plaisir de voir, de regarder?
Oui, c'est ce que veut dire scopophilie. Je suis tombée amoureuse des visages du Louvre, littéralement amoureuse. J'allais les voir toutes les semaines. C'est pour ça que j'ai appelé cette expo Scopophilia, parce que c'est presque, c'est une expérience de plaisir qui engage le corps entier, le plaisir de regarder. Voilà ce qu'est la scopophilie.
Et Fata Morgana, c'est quoi?
Je sais seulement que c'est un mirage. Ça désigne quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et c'est ce qu'on s'efforce de trouver dans un mirage.
Une illusion visuelle, optique?
Oui, j'ai fait cette expérience un jour en avion. C'est d'ailleurs là que j'ai pris cette photo, celle qui s'appelle Fata Morgana.
It was a moment of seeing nothingness.
À ce moment-là, je regardais le vide.
Of seeing the emptiness.
Je voyais le néant.
And then it becomes a mirage that you try to find.
Et puis c'est devenu un mirage que vous essayez de déchiffrer.
Tout à coup, Nan Goldin se met à parler de sa nouvelle vie, une vie qui fait des ponts avec l'ancienne.
The other thing that my work is about my political activism.
En ce moment, mon travail porte sur mon militantisme politique. Je suis devenue une voix, une activiste, en réponse à la crise des opioïdes. J'ai un groupe et nous avons ciblé une famille en particulier, les Sackler. Ce sont de grands philanthropes et mécènes des arts. Ils ont toute une aile à leur nom, au Met, et leur nom à l'Académie royale. Mon groupe s'appelle Sackler Payne et nous nous réunissons toutes les semaines dans mon salon. Il s'agit de se battre contre cette firme pharmaceutique en particulier parce que la famille Sackler blanchit son argent dans les musées. Or, j'adore le Met, c'est mon musée préféré avec le Louvre. Alors, y voir leur nom gravé, alors que ce nom est devenu synonyme du scandale des médicaments opioïdes,
That's their legacy.
Et c'est ce legs qui doit désormais être associé au Sackler.
We're trying to. There's been 300,000 deaths in America.
La crise des opioïdes est responsable de 300 000 morts aux États-Unis ces dernières années. Plus que le nombre d'homicides, de suicides et d'accidents de la route réunis chaque année.
Et
nous essayons d'enrayer cette épidémie.
Exponentially growing all the time.
La consommation de ces antalgiques augmente de façon exponentielle. Ça n'est pas prêt de s'arrêter. Mais je pense que dans ce monde où nous vivons, chacun doit trouver un moyen de se battre. Parce que la situation est vraiment alarmante. Et nous devons chacun trouver un terrain sur lequel nous battre. Alors j'ai décidé de me battre contre le scandale des opioïdes. Je connais les effets de l'addiction dans mon propre corps. Je suis passée par là. Et depuis novembre dernier, je travaille là-dessus. Nous avons déjà mené quelques actions sur le modèle d'ACT UP. Nous sommes une organisation de type guérilla. Notre première action, c'était au Met. J'avais apporté des flacons de pilules que nous avions fabriqués. Il y a un designer incroyable dans le groupe. Donc tout est superbe, tout ce qu'on fait. C'est important qu'il y ait de la beauté, jusque dans le militantisme, oui. Alors on avait réuni une centaine de personnes, nous avons jeté plus de 1000 flacons dans le Nil, au bord du temple de Dendur, qui est la reconstruction d'un temple égyptien, une donation des Sackler. Et on a organisé un petit happening, une prise de parole surprise, on appelle ça un mic jack. Nous étions une centaine, nous avons envahi la salle et les touristes qui se trouvaient là étaient très curieux. Il y avait aussi des enfants et on a fait un die-in, on s'allonge tous par terre et quelques enfants se sont allongés sur le sol avec nous. Puis on est sortis avec des banderoles et on a pris la parole en haut des marches. On avait réussi à entrer avec tous nos flacons, à franchir la sécurité. C'était une action incroyable, vraiment magnifiquement chorégraphiée. Et puis on a mené une autre action il y a 15 jours à Washington DC, dans la galerie Sackler de la Smithsonian, avec là encore un die-in et des flacons de pilules. Et puis un grand discours sur la pièce en granit où est gravé le nom d'Arthur Sackler. Nous y avons posé nos flacons. Il y avait des gens venus de tout le pays. Actuellement, nous préparons d'autres actions d'envergure qui vont faire du bruit. Donc on se bat. Et nous tournons aussi un film. Nous voyageons dans le pays, partout, pour trouver des solutions, pour rencontrer des gens sur le terrain qui viennent directement en aide aux pharmacodépendants. Voilà ma vie en ce moment. La première chose que j'ai faite, c'était écrire un article dans Art Forum en janvier où je parlais de tout ça. Je me décrivais comme une survivante de l'oxycodone. Je racontais ce que ça m'avait fait, comment ça avait affecté ma vie et comment j'en étais sortie. Désintoxiquée. Et j'expliquais que maintenant je comprenais ce qui se passait. À l'époque, je ne voyais rien. J'étais trop occupée à me procurer des cachets. Tout tournait autour de moi et de la drogue. Et je ne voyais pas la crise qui enflait sous mes yeux. Comme je me droguais seule, je ne savais pas qu'il y avait des centaines de milliers d'autres personnes qui prenaient les mêmes antalgiques addictifs. L'addiction, la pharmacodépendance, c'est une maladie comme d'autres maladies chroniques. Il faut les gérer. C'est comme le diabète. Les rechutes sont chroniques. 90% des gens rechutent à un moment ou l'autre. Alors, je dois gérer ça tous les jours. Ça ne s'en va pas simplement parce que je ne prends plus de cachet.
It affects every aspect of my life.
Ça affecte tous les aspects de ma vie.
I never tried to credit drugs with my
work. Je n'essaye jamais d'expliquer mon travail par la drogue. Je n'ai jamais fait dans l'héroïne chic. Je ne me suis jamais servi des drogues pour me vendre dans le monde de la mode, comme on m'en a accusé. Ou mon travail dans les années 80 pour le ballet. La drogue faisait partie de nos vies, mais ce n'était pas le fondement de notre existence. Mais l'addiction m'a suivi en pointillé pendant des années, et aujourd'hui je suis sortie du brouillard. À la fin, je vivais uniquement dans ma chambre pendant quelques années. Je ne sortais jamais de la maison, sauf pour prendre un avion et aller dans une autre chambre, dans un autre pays. Ouais, donc c'est un grand changement. C'est presque un choc. Et je m'en félicite tous les jours. D'en être sortie, oui.
C'était le portrait de Nan Goldin traduit par Eve Dair. Vous pouvez découvrir l'exposition Fata Morgana jusqu'au 11 novembre au château d'Ardelot de Condette en Picardie. Je vous donne rendez-vous demain à 11h45 pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne Toscane Viudès et Anna-Livia Marchaison. À la réalisation Marie Placé, à la technique Stéphane Poidevin. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.